L'heure des sages.
À la rencontre de sa voix.
Quand on est bébé, on rit, on crie, on a faim et on est entendu à l'autre bout de la rue. Et puis on est une espèce de boule d'énergie. Bah, au fur et à mesure, on grandit, on marche sur ses deux pieds, bah, on est cadré, on nous dit, enfin je prends des exemples, hein, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais tais-toi, tu chantes faux, ou on a des émotions très fortes, et puis on nous dit, chut. Donc du coup, on se pétrifie dans un mouvement qui est plutôt un mouvement de fermeture. Donc on respire beaucoup, de façon beaucoup moins ample. On remonte son énergie très souvent au-dessus de la poitrine, ce qui est le siège de l'émotionnel. On a les épaules qui se rapprochent en avant, on s'enroule. En fait, on se crispe dans une position qui a été très utile pour faire face à une épreuve à un moment donné, mais qu'on garde. Ben, notre voix, elle est un petit peu enfermée. Et du coup, on a des harmoniques qui ne vibrent pas dans la voix. Et aussi une voix qui ne porte plus comme à l'époque où nous étions enfants.
Françoise Novak, accoucheuse de voix. Elle est aussi journaliste indépendante, coproductrice et animatrice avec Vincent David et Malek Boukherchi de l'émission radio Messages musicaux. Nous la rencontrons pour parler de son travail spécifique autour de la voix.
Tout le travail que je propose vise à redevenir un bébé qui a bien grandi et donc réouvrir le corps, retrouver une mémoire d'une bonne respiration et de retrouver sa verticalité corporelle et vocale.
Justement, tu utilises l'expression « accoucher de sa voix ». Oui. Tu te présentes comme une accoucheuse de voix. Oui. Et donc ça permet une renaissance de notre être en entier, ce que tu fais.
Oui, parce qu'accoucher de sa voix, c'est aussi accoucher de soi. C'est-à-dire que quand on retrouve la plénitude de sa voix, on retrouve la puissance de sa voix, donc sa puissance tout court. Donc on retrouve en général plus de confiance en soi. Et moi, j'appelle ça habiter sa maison. C'est-à-dire que quand on émet sa voix dans sa plénitude, en fait, on habite complètement son corps. Et le terme d'accoucheuse de voix, moi, j'y tiens beaucoup, parce qu'on va non pas chercher une autre voix, c'est-à-dire quelque chose qui est extérieur, qui nous semblerait joli, une voix qu'on décide grave ou qu'on déciderait aiguë ou qu'on déciderait comme ci ou comme ça, on va chercher l'authenticité de sa voix.
La voix est plus presque l'élément révélateur de la vérité. Le grain de la voix en dit plus long que le mensonge d'un regard. On ne peut pas mentir avec une voix, c'est absolument impossible. Tout est gravé dans la voix. Donc c'est un trésor. Comme tout trésor, il faut le manipuler avec beaucoup de précaution. Et il faut sans cesse le polir, le travailler, pour arriver à ce petit galéron sublime et si mystérieux sur la grande plage déserte sur laquelle on atterrit tous. Voilà. Bara alo yure soke woda omoni ala
wana mama kenya irawo. Je m'appelle Bruno Vienne et je suis cinéaste de documentaires. J'avais déjà quelques incertitudes à propos de ma voix et surtout c'est au niveau du chant. J'avais l'impression de chanter faux et on me le disait. Enfin on me le disait, on me l'a dit quand j'étais plus jeune, et j'avais comme quelque chose qui était bloqué. Je me disais jamais je pourrais chanter, jamais je pourrais. Donc ma voix, de toute façon, elle est incertaine.
Il n'y a pas de normes en matière de voix. Il y a des moyennes qui permettent de dire la voix est voilée, raillée, rauque, de faible intensité, enfin, etc. Il n'y a pas de normes parce qu'elle bouge tout le temps et que la voix change. Parfois même en fonction de la vie que nous vivons. La voix traduit une appartenance sociale et professionnelle. Alors la voix, elle est caractérisée par trois paramètres, la hauteur, l'intensité et le timbre. L'intensité, c'est par les formes faibles. La hauteur dépend en grande partie de quelque chose dont on a hérité, c'est la masse des cordes vocales. Plus la masse est importante, plus la voix est grave. Et puis, il y a le timbre. Et le timbre, c'est la magie. La résultante de la qualité de contact des deux cordes vocales, puisqu'effectivement, on n'en a que deux, et l'agencement des caisses de résonance. Donc, c'est là qu'on va aimer une voix, travailler une voix. On va reconnaître une voix. On sait que l'on juge et que l'on est jugé sur sa voix et sa façon de prendre la parole. Et dans les paramètres qui sont les plus souvent jugés et qui nous permettent cela, c'est le timbre. Le timbre traduit vraiment à chaque instant notre vécu.
Quand je suis rentré, j'ai tout de suite vu sur la table la boîte de ses dockers.
Maintenant, le roi de Rhodes se rend au rat des rats.
Oui, oui, un petit instant, voulez-vous?
C'est magnifique.
Le roi de Rhodes se rend...
Non, Rhodes, Rhodes.
Nous y voilà.
La voix de Charles Denner, c'est l'affrontement, disons, d'une certaine angoisse de manquer de séduction, par exemple.
Il y a beaucoup de personnes qui font un travail sur la voix qui est très mental. C'est-à-dire qu'on donne des recettes intellectuelles. On dit aux gens, voilà, vous allez avoir à parler en public, donc vous allez vous mettre au milieu, et puis vous allez bien regarder tout le monde. Et puis premièrement, vous allez tirer vos épaules comme ci. Deuxièmement, vous allez faire ça. Troisièmement, etc. Sauf que le propre du stress est... C'est bien rare d'échapper au stress quand on parle en public, c'est que toutes les méthodes mentales, c'est les premières choses qui s'en vont. Alors que le corps, lui, il a une mémoire très forte, et à travers le travail qu'on peut lui faire faire, de posture, de tirer l'énergie vers le bas, d'inspirer en ouvrant les côtes, eh bien lui, il est super content et il en redemande. En fait, tout d'un coup, les personnes qui travaillent avec moi me disent « bah, j'en reviens pas, j'étais dans la rue et je me suis redressée. Mais c'est pas parce que je me suis dit, tiens-toi droit. C'est mon corps qui l'a fait tout seul. Parce que justement, comme il l'a senti une fois, deux fois, trois fois, à un moment, il dit à la personne, moi j'ai besoin, hein, donc je me redresse. Voilà.
Ta méthode, tu l'appelles aussi au cœur du corps, justement.
Oui, je l'appelle au cœur du corps, justement pour bien différencier ce travail physique du travail mental, même si, bien entendu, nous avons tous un cerveau et que sans le cerveau, rien ne se passe. Mais je tiens à ce mot-là parce que les gens, même en sachant que ça s'appelle comme ça, quand ils viennent, ils sont très surpris du travail physique que ça représente. J'ai fait travailler quelqu'un qui est habitué de faire du marathon en conditions extrêmes. Et il m'a dit, mais c'est incroyable, je transpire à grosses gouttes, je suis fatiguée, alors que j'ai une endurance incroyable, je suis vraiment formée pour ça. Et c'est le cas parce qu'en fait, on change de système, donc on fait travailler son corps autrement, on peut avoir des courbatures à la fin d'une séance.
Je peux témoigner parce que j'ai pris des cours avec toi, et c'est vrai qu'à la fin, on est vraiment... très fatigué, ça sollicite des parties de corps qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Et que ce soit couché, assis ou debout, ça passe par différentes positions. Et ce qui est extraordinaire, c'est cette voix qui naît, qui émerge et on se dit, bah waouh, c'est moi là.
Oui. Et d'ailleurs, parfois, il faut un temps d'adaptation. Hein. Je pense à une personne qui avait vraiment un voile dans la voix parce qu'elle était derrière, quoi, habituée de parler en retrait. Et puis, je l'ai fait travailler. Puis tout d'un coup, c'était un monsieur. Il a sorti une voix de stentor et ça l'a tellement impressionné qu'il a dû s'asseoir et il est resté sans voix là parce qu'il avait besoin d'être dans le silence pendant mais au moins 3 minutes, quoi. Hein. Vraiment, se dire « mais c'est moi ça », c'était vraiment très impressionnant.
Quand Françoise nous met dans certaines positions, et elle a vraiment l'œil pour ça, et la sensibilité, je dirais, on va vraiment chercher une authenticité de la voix. On ne se contente pas de trouver une voix qui peut être... ample, qui peut être grave, qui peut être avoir toutes sortes de tonalités, mais l'impression que j'ai, c'est qu'elle sonne juste avec notre organisme et que malheureusement, on ne la fait pas sortir et sonner souvent comme ça. Et donc, dans ces positions un peu improbables, il y a un petit aperçu qui peut être quelquefois furtif de cette voix qui sonne juste. Et quand on a goûté à cette sensibilité de la voix, eh bien, on n'a qu'une hâte, c'est d'y retourner. Hein. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut un certain courage. Parce que on va dans des centres douloureux de nous-mêmes. Et donc, c'est des remises en question. Mais si on a cette sensibilité d'aller de l'avant, eh bien, y a une espèce d'harmonie après qui rejaillit. Pas seulement dans la voix, mais dans notre vie quotidienne.
Je fais beaucoup travailler et de plus en plus sur les archétypes, et notamment l'archétype du roi et de la reine, parce que nous sommes tous les rois et les reines de notre vie, et souvent on ne se donne pas la place. Et prendre cet espace-là, en général, nous permet d'ouvrir les côtes, de nous redresser. Donc on va chercher une énergie animale que plein de gens ne mettent pas en route. Mais quand ils la mettent en route, souvent ils peuvent monter même plus haut que le ré, et puis on fait descendre, et puis on fait plein d'autres choses aussi. Ensuite, à la fin de la séance, quand les gens parlent, ils sentent qu'il y a une différence de prise d'espace du son, puis d'impact, parce que en général, il y a beaucoup plus de puissance. Mais quand les gens repartent, ça ne s'installe pas tout de suite, et ce qui s'installe en dernier, c'est justement le changement dans la voix parlée. Pourquoi ? Parce qu'on repart dans son monde, et dans son monde, on a des relations avec les gens. Si on parle comme ça, généralement, on noue des relations avec des gens qui peut-être ont de l'emprise sur nous, et ont l'habitude de, eux, se faire entendre beaucoup plus. Donc il y a un rapport de force, je vais dire, inconscient, qui est lié aussi à la façon dont on pose sa voix. Mais si on retourne chez soi et qu'on a noué une relation amoureuse avec quelqu'un, et qu'on passe de cette petite voix, par exemple pour une femme, d'une petite voix comme ça, « Oh mon chéri, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis contente !» ça va induire quelque chose dans la relation à tel point que justement, j'ai fait travailler une fois des personnes qui avaient pour problématique de mieux vendre par téléphone. Et il y en a une qui est rentrée chez elle à la fin de l'après-midi où je les avais fait travailler. Et elle raconte ça à son compagnon qui, au lieu de se réjouir avec elle, lui dit « Oh, tu crois pas que tu vas tout décider toi à partir de maintenant, hein ? Ça va pas changer. » C'est-à-dire qu'il avait très bien compris, et lui, il l'a exprimé, que le fait de prendre sa place avec sa voix, c'est aussi prendre une autre place qu'est la sienne, et que du coup, la relation avec les autres, elle peut changer parce qu'on prend plus de place, donc c'est très important. Mais ça ne peut pas forcément se jouer tout de suite, parce que voilà, on y tient aux relations d'avant avec les gens. Donc il faut être suffisamment sûr de soi avec sa voix pour oser être qui l'on est vraiment avec les gens qui ont l'habitude d'autre chose.
Travailler sur sa voix, c'est travailler sur sa place dans le monde, dans le contexte social, dans les rapports qu'on a avec nos conjoints ou nos enfants. Donc je me sens effectivement un peu plus écouté maintenant par les enfants, parce que ma voix est un peu plus grave. Par moments, ça peut porter préjudice dans des endroits où on doit se faire tout petit, se taire. On entend ma voix maintenant qui porte. J'ai l'impression vraiment de prendre ma place.
Comment vous appelez-vous ?
Maud.
Comment vous trouvez votre propre voix ?
Certaines personnes ont dit que j'avais une voix de jeune fille. Je m'entends pas souvent, mais ça me fait bizarre quand je l'entends. Donc j'aime pas trop, mais ça va.
Je m'appelle Elisa.
Vous l'aimez, votre voix ?
Je dirais pas que je l'aime, non. Elle me dérange pas. Elle va bien avec ma personnalité, je pense.
Donc en aimant sa voix, on aime sa personnalité.
Bah ça va. Je dirais que je suis pas quelqu'un de trop horrible, ouais ça va. Je suis plutôt quelqu'un de sympa et de gentil, donc je pense que ça se sent dans la voix aussi des fois, ce genre de choses. Si la voix est complètement fermée ou hyper en retrait, on se sent peut-être moins à même d'aller vers l'autre. Ça met un peu une barrière peut-être. Comme si quelqu'un est très avenant à travers sa voix, ben ce sera peut-être plus simple. Après, je sais pas si j'ai déjà été bloquée d'aller vers des gens à cause de leur voix, je sais pas.
Je m'appelle Pascal. J'aime pas du tout ma voix. Quand je l'entends dans des enregistrements, que ce soit des vidéos ou des trucs comme ça, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'étranger. J'entends pas la même que quand moi je parle. Et j'aime pas du tout.
Mais quand vous vous entendez parler ?
Ouais, j'aime bien. Enfin, c'est ma voix, donc j'ai toujours habitude. Mais quand on l'entend différemment avec un enregistrement, c'est dur, quoi. Il y a des voix qui sont super charmantes, des voix qui sont un peu agressives, ça dépend, quoi. Je crois qu'on peut, comme les yeux, quoi, on peut voir vite sur... Je pense que la voix de quelqu'un, elle peut dire plein de choses sur son état au moment donné où il parle. Si la personne a une voix agressive, c'est quelqu'un qui va être agressif, quoi. Si elle parle très langoureusement, très lente, comme Pascal Clark. Vous voyez qui c'est là, en aparté. On voyait que sa voix. Elle avait une très belle voix, quoi.
Je m'appelle Henri. Je suis programmateur musical sur la radio Jet FM à Nantes.
Est-ce que tu aimes ta propre voix ?
Oui, maintenant, oui. Mais parce que c'est devenu un outil de travail en plus, que j'aime bien jouer avec. J'ai mis du temps, comme tout, je pense tout le monde, à l'accepter. Enfin, elle ne me posait pas de problème jusqu'à ce que je l'entende vraiment enregistrée. Alors là, c'est autre chose. Dans la vie de tous les jours, ça dépend. Elle est un peu comme ça, mais je suis bien obligé de la pousser un peu plus pour me faire entendre parfois. Mais je me fais assez peu souvent entendre. Je peux passer une demi-heure devant un bar, enfin au comptoir d'un bar, à essayer de péniblement obtenir une bière et on m'entend pas, par exemple, en soirée. Ça peut être handicapant. J'ai une voix plutôt faible en fait. Je fais depuis pas très longtemps de la musique et je chante aussi un peu. Et en fait, c'est assez problématique parce qu'autant en enregistrement, c'est assez facile justement de jouer avec la... Tu peux enregistrer très près du micro, quelque chose de très, très intime. C'est d'ailleurs pas, je braille pas, tu vois. C'est plutôt de la musique très calme et un peu triste. Mais en concert, ça peut poser problème. Il faut savoir envoyer un peu la voix. Et je pense que j'assume pas encore complètement ça. Et ça va venir. Il va falloir. Il faut ouvrir un peu le corps, quoi.
Moi, je me souviens de moments où on arrive justement à un blocage, où il y a des émotions, des pleurs qui jaillissent, ou des colères qui commencent à ressortir. Un jour, à François, je lui ai dit « Stop, on arrête tout, j'en peux plus, je suis découragé. » Et elle m'a dit « Bon, je respecte. » Et puis on a arrêté le cours aux trois quarts. Et je suis revenu par la suite. C'est comme si j'avais touché quelque chose de fondamental qui, petit à petit, s'est ouvert. J'ai beaucoup d'amis qui ont commencé un travail avec Françoise et qui, peu à peu, ont abandonné parce que ça allait très profond et que ça faisait bouger des choses au niveau des émotions.
Est-ce que ce travail permet de guérir des blessures émotionnelles liées au passé, voire même des problèmes de santé ?
Alors, moi, je ne suis pas thérapeute.
Est-ce que tu vois, par contre, des changements ?
Oui, je vois des changements.
Sans vouloir faire un travail de thérapeute, évidemment.
Moi, sur moi, je considère que ce travail est thérapeutique. Effectivement, en fait, on a des mémoires émotionnelles négatives qui sont renfermées dans notre corps. Et tout ce travail consiste à les déverrouiller pour les faire s'évanouir, finalement, s'en libérer. Et effectivement, c'est thérapeutique à ce sens-là. Mais je ne suis pas thérapeute et ce n'est pas une thérapie. Voilà.
Donc tu vois des transformations
Ah oui.
Phénoménales chez les gens.
Ah oui, c'est incroyable. il y a de la lumière qui arrive dans les yeux des gens, il y a de la joie, il y a quelque chose de lumineux qui arrive.
Donc finalement, lorsqu'on va à la rencontre de notre voix, à quoi nous ouvrons-nous, si on peut résumer par rapport à tout ce qu'on vient de dire ?
On s'ouvre à nous-mêmes et par conséquent aux autres, parce que finalement, être bien avec soi, pour moi, c'est un préalable à pouvoir rayonner et être dans le juste, au sens du diapason, en leçon juste avec les autres. Mais je voulais dire quelque chose à propos de la voix. Justement, je reprends l'exemple de ces gens qui parlent avec une espèce de voile, qui retiennent finalement leur voix. Souvent, on n'a pas envie de les écouter, ces gens-là, ils ne sont pas présents. Ce que donne ce travail, c'est oser être dans la présence. Et quand les gens timbrent bien leur voix, ils assument, ils habitent leur maison corps et leur maison personne à travers une voix qui est bien posée, bien timbrée, en fait, ils se font du bien à eux, parce que voilà, le son est juste, mais ils font aussi du bien physiquement aux autres. Alors ça, je ne peux pas le prouver, mais moi, je ressens que quand il y a des sons qui m'arrivent sur le corps, ça me fait du bien. Je reçois quelque chose de positif. Et donc, j'ai envie d'écouter le sens le plus premier, c'est-à-dire tendre l'oreille, mais aussi d'écouter le contenu de ce qu'elle dit. Ça me paraît vraiment important.
Qui est magique avec Françoise, elle a tellement l'habitude qu'elle va chercher l'endroit où ça bloque et elle va voir la position à nous faire prendre pour prendre conscience de ce blocage et petit à petit sentir qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts finalement, que la voix sort toute seule et que c'est là où elle sonne juste.
Est-ce qu'on a la sensation de toucher plus profondément qui l'on est vraiment ?
Oui, j'ai l'impression qu'on a cette sensation de toucher le cœur de nous-mêmes, à notre souffle d'origine, et après il y a un plaisir qui découle de ça.
Quand je dis habiter sa maison, c'est trouver son unité, donc que tous nos aspects soient rassemblés, le spirituel, le corporel, le cœur.
Créer un alignement finalement.
Oui, et bien, c'est trouver sa verticalité, c'est son alignement dans sa globalité, sans rien oublier, et pas que la tête quoi.
Alors on va chercher l'osmose.
tais-toi. Moi je suis moi et toi tais-toi. Moi je suis moi et toi tais-toi.
C'est l'osmose, hein?
J'aime pas les seuls, moi non plus, moi non plus. J'aime pas les seuls, moi non plus, moi non plus. J'aime pas les seuls, moi non plus, moi non plus. J'aime pas les seuls, moi non plus, moi non plus.
Alors après avoir parlé du pouvoir guérisseur de la voix, j'aimerais aborder plus particulièrement le chant. J'aimerais lire un texte de Vincent Delacroix, qui est philosophe. « Il faut chanter juste, être juste, s'accorder à soi-même, c'est ce que demande la société des hommes. Et la voix fausse nous trahit dans les deux sens du terme. Elle nous fait défaut et manifeste une sourde défaillance cachée. Quelque chose ne va pas en nous. C'est le corps qui défaille. » Donc chanter faux, ce serait finalement une expression d'une faille de notre personne. Comment vois-tu la chose ?
Alors moi, dans le cadre de mon travail, je vois ça de façon très prosaïque. Je constate que les gens qui viennent et qui chantent faux se mettent à chanter juste assez rapidement parce qu'en fait, il y a un décalage, ils mettent trop d'énergie sur certains sons, pas assez sur certains autres. Donc c'est vraiment un bon rapport entre la respiration, l'énergie qu'on met, et ça se corrige très vite. C'est un mauvais réglage, je dirais, chanter faux. Mais quel malheur, quel dégât ça fait chez les enfants devenus adultes à qui on a dit « mais non, toi tu chantes pas, mais c'est horrible ». Il y a peut-être, même probablement, des gens qui ont une pathologie. Mais moi, je ne les ai jamais rencontrés, ces gens-là, jusqu'à présent. Les gens qui viennent et qui chantent faux, à un moment, ils chantent juste, en faisant mieux leur réglage.
Est-ce que vous aimez chanter ?
Oui, j'adore chanter. Je ne chante pas très bien, je pense, mais j'adore tout et n'importe quoi. Je trouve que ça rend heureux de chanter.
Qu'est-ce que vous chantez ?
Des chants des Pyrénées, des chants des vieux, des chansons, un peu de rap, des trucs que j'écoute, quoi. Quand on chante, quand on est dans la voiture, quand je suis dans la montagne, on pousse la voix. En soirée, des champagnards, des choses comme ça. Parce qu'on est du Sud-Ouest.
Je m'appelle Thomas.
Est-ce que vous aimez chanter ?
Non, j'aime pas ça, je chante très mal. Je chante sous la douche, c'est tout pour moi. Mais non, je chante pas sinon. Ou très rarement. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup les chansons françaises, donc il y a des voix qui me touchent, ou des timbres de voix qui me touchent plus que d'autres.
Alors, je m'appelle Gabriella et j'adore chanter. Ouais, je chante très souvent. Je chante à peu près tout le temps quand je peux. Par contre, un truc qui est vrai, c'est que j'écoute beaucoup de musique. Mais souvent, les choses qui me retiennent sur un groupe en particulier, ça va être le plus produit, quoi. C'est pour deux groupes identiques. Si dans l'un, il y a une présence chantée qui est hyper belle, ça va rajouter des choses là-dessus. Il y a plus d'émotion, en fait, à mon sens.
Pour moi, ce travail conduit très naturellement au chant, et que là non plus, je ne peux pas le prouver, mais je pense que l'expression « chant » était une expression première dans l'espèce humaine, que nous avons chanté avant de parler, parce que parler, c'est articuler des mots, des phrases, c'est très structuré, et qu'au départ, les gens chantaient. Et j'ai lu... Je ne suis plus capable aujourd'hui de dire qui a écrit ça, mais c'était une personne du monde ecclésiastique qui disait que le chant permet d'exprimer et de guérir des blessures, mais des blessures du cœur, là, cette fois, c'est-à-dire la mort de quelqu'un, la trahison de quelqu'un, et qu'à travers le chant, on peut exprimer et donc surmonter des difficultés de cet ordre-là que la parole ne permet pas à elle seule de surmonter. Et moi, je suis convaincue de ça à titre perso, quoi.
Le chant est la véritable langue maternelle de l'humanité, car il est le moyen le plus naturel et le plus simple par lequel nous pouvons communiquer totalement avec toutes nos expériences, toutes nos émotions et tous nos espoirs. Le chant est avant tout la danse intérieure du souffle, de l'âme. Mais il peut aussi, dans la danse, libérer nos corps de leur raideur et nous enseigner le rythme de la vie. Nous autres humains sommes des êtres sonores, capables de puiser et de créer par le chant. Lorsque quelqu'un chante de toute son âme, il soigne ainsi son monde intérieur. Lorsque plusieurs chantent de toute leur âme et s'unissent dans la musique, ils guérissent ainsi le monde extérieur. Sur l'importance du chant, Yehudi Menuhin.
Quand les gens sont suffisamment bien avec leur respiration, leur musculation, l'ouverture des côtes, etc., eh bien on chante, et le chant est un outil supplémentaire pour continuer à progresser, à révéler cette voix et à oser être de plus en plus qui l'on est. Puis les gens n'en reviennent pas, parce qu'il y a plein de gens qui se mettent à chanter. Jamais ils n'auraient imaginé se mettre à chanter, et ils sont heureux.
Chanter, c'est finalement créer de l'harmonie en soi et autour de soi.
Oui.
Et exprimer la joie d'exister aussi, finalement, c'est la vie.
Ça m'évoque ce que tu dis, une émission que j'ai vue sur Arte il y a un certain nombre d'années, je ne sais plus, ça fait au moins 4-5 ans, si ce n'est plus. C'était une émission consacrée à des Suisses qui font du yodel et qui continuent à faire du yodel en l'incorporant à des compositions contemporaines, mais vraiment axées sur le yodel. Et donc, ce sont des gens qui habitent la montagne. Et ils disaient que le chant du yodel était pour eux une façon de pouvoir supporter la vie en montagne et de ne pas se sentir écrasé par la montagne. Et moi, ça m'a complètement parlé et confirmé dans ce que je disais sur le besoin de chanter.
C'était à la rencontre de sa voix pour l'émission L'heure des sages. Réalisation Anne-Claire Rebibeau. Merci à Françoise Novak, Bruno Vienne, Gabriella, Henri, Maud, Elisa, Pascal et Thomas. Merci également à la Semaine du son et à Vidéoscopie Productions pour les extraits sonores des rencontres sur la voix au théâtre avec Jacques Weber et le docteur Claude Fugain.
Hi, Mom. Amen, amen, hallelujah, amen.